Bien, donc on va commencer ce deuxième cours dialogique autour de Michel Foucault. Donc le cours tournera autour de la Foucault et de la subjectivation. Donc avant de commencer à proprement parler, je vais rappeler quelques, là où on en était la dernière fois, c'est-à-dire quelques caractéristiques principale de la conception extensive du pouvoir chez Foucault, puisqu'on va retrouver cette question du pouvoir en partie autour de la question de la subjectivation. Donc, je rappelle que le pouvoir pour Foucault, c'est des relations, ça renvoie à une inégalité, à une mobilité. Je cite un passage de la Volonté de savoir, 1976, le pouvoir s'exerce à partir de points innombrables et dans le jeu de relations inégalitaires et mobiles. Et puis le pouvoir, c'est une action sur l'action, c'est le texte Le sujet et le pouvoir de 1982, une action sur l'action, avec deux autres dimensions notamment qu'on va retrouver aujourd'hui. Il y a un lien entre pouvoir et savoir. Par exemple, dans Surveiller et punir de 1975, Foucault écrit qu'il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Et il y a aussi un lien entre pouvoir et résistance. Là où il y a du pouvoir, il y a de la résistance, toujours dans la volonté de savoir. Donc on va procéder un peu de la même façon pour cette deuxième séance. Cette fois-ci, c'est moi qui commencerai à peu près 20 minutes, puis Daniel Colson interviendra environ 20 minutes, et puis on réagira ensuite, par la suite, à nos interventions, et un débat s'engagera. Des extraits de textes de Michel Foucault qui seront utilisés aujourd'hui seront donnés, mais sur le site, dans quelques jours, pas immédiatement, mais il y en aura. Et puis, comme on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui, on voudrait dédier cette séance à notre ami Dimitri Sebian, qui a eu aujourd'hui une opération risquée, qui est un des fondateurs et des piliers de l'Université populaire de Lyon, et qui a surmonté l'épreuve. Et donc, on voudrait que cette séance, qui débouche sur la subjectivation, justement, lui soit dédiée, du fond de son lit d'hôpital. Alors, je vais essayer de d'éclairer la question de la subjectivation à travers deux dimensions présentes dans des textes différents de Foucault. C'est-à-dire que dans un premier moment de Foucault, assez long, qui va de l'histoire de la folie à l'âge classique, 1961, à Surveiller et punir, naissance de la prison, 1975, la question du sujet ou de l'individu ou l'individualité apparaît chez Foucault, mais comme le produit de normes socio-historiques, comme le produit de dispositifs de savoir-pouvoir. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui produit l'individualité et le sujet, et on ne pense pas une individualité ou une subjectivité autonome. Ensuite, dans les derniers textes de Michel Foucault, ceux publiés en 1984, L'usage des plaisirs et le souci de soi, la question de la subjectivation intervient comme quelque chose qui n'est pas simplement le produit du pouvoir. Et donc on verra le problème de ces deux modalités d'intervention, de l'individualité et du sujet chez Foucault, et de leur lien éventuel. Alors d'abord, donc, une individualité disciplinaire créée par des normes socio-historiques, par des dispositifs de savoir-pouvoir. Dans l'histoire de la folie à l'âge classique, donc 1961, c'est des dispositifs de savoir qui individualisent, et là, qui individualisent le fou. Je cite par exemple un extrait, « L'asile ne sanctionne plus la culpabilité du fou, c'est vrai, mais il fait plus, il l'organise pour le fou comme conscience de soi. » Foucault parle aussi de l'intériorisation de l'instance judiciaire, et la naissance du remords dans l'esprit du malade. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'individualisation du fou dans le dispositif de savoir imposé dans la construction de la folie. Et ce mouvement de construction du fou, comme un individu, se constitue notamment à travers des savoirs psychologiques et l'importance de la psychologie comme construction du fou comme individu. Dans Surveiller et punir, donc le livre sur la prison, 1975, Foucault fait intervenir à côté de la question du savoir des dispositifs de pouvoir. Et par exemple, ce sont les dispositifs de pouvoir qui vont être un mode de constitution de l'âme moderne. Je cite un passage, « L'histoire de cette microphysique du pouvoir punitif serait alors une généalogie ou une pièce pour une généalogie de l'âme moderne. Plutôt que voir en cette âme les restes réactivés d'une idéologie, on y reconnaîtrait plutôt le corrélatif actuel d'une certaine technologie du pouvoir sur le corps. Elle est produite en permanence, autour, à la surface, à l'intérieur du corps, par le fonctionnement d'un pouvoir qui s'exerce sur ceux qu'on surveille, qu'on dresse et corrige, sur les fous, les enfants, les écoliers, les colonisés, sur ceux qu'on fixe à un appareil de production et qu'on contrôle tout au long de leur existence. » Donc l'âme, d'une certaine façon, individuelle, est constituée, malgré les personnes concernées, par les dispositifs de pouvoir et de surveillance. Donc c'est le pouvoir qui, de l'extérieur, constitue l'individualisation. C'est ce qui fait que Foucault va parler, dans ce texte, Surveiller et punir, d'individualité disciplinaire. C'est la discipline du pouvoir qui institue l'individu. De là la formation de toute une série de codes de l'individualité disciplinaire qui permettent de transcrire, en les homogénéisant, les traits individuels établis par l'examen. Code physique du signalement, code médical des symptômes, code scolaire ou militaire des conduites et des performances. Toute une série de technologies d'individualisation par le pouvoir et qui constituent donc l'individu par le pouvoir. Notamment sous la figure du dispositif de l'examen. La généralisation de l'examen. Je cite encore, « L'examen comme fixation à la fois rituelle et scientifique des différences individuelles, comme épinglage de chacun à sa propre singularité. » C'est-à-dire, la constitution de la singularité est une manifestation du pouvoir. Et c'est une manifestation du pouvoir différente de la façon dont le pouvoir individualisé avant les rois et ce qu'on appelait les grands hommes. Foucault dit « En opposition à la cérémonie où se manifestent les statuts, les naissances, les privilèges, les fonctions avec tout l'éclat de leur marque. » C'est-à-dire, il y a une individualisation avant qui était celle des grands, des princes, des rois. Et l'examen, qu'on trouve notamment dans le dispositif de la prison, et pas seulement, ça individualise à une échelle beaucoup plus large. Ça individualise les hommes ordinaires et pas simplement les grands hommes. Donc, nous dit Foucault, cela indique bien l'apparition d'une modalité nouvelle de pouvoir où chacun reçoit pour sa statut sa propre individualité, où il est statutairement lié aux traits, aux mesures, aux écarts, aux notes qui le caractérisent et font de lui de toute façon un cas. Donc, l'individualité, ce n'est pas quelque chose qui serait choisi, ce n'est pas quelque chose qui naîtrait de la personne, ça serait une construction extérieure à la personne par les dispositifs de savoir et par les dispositifs de pouvoir. On pourrait dire d'une certaine façon individualité disciplinaire, c'est-à-dire l'individu est construit malgré lui comme individu. Je cite encore « Surveiller et punir ». Le moment où on est passé de mécanismes historico-rituels de formation de l'individualité, c'est ceux des grands hommes, des princes, à des mécanismes scientifico-disciplinaires où le normal a pris la relève de l'ancestral et la mesure la place du statut, substituant à l'individu de l'homme, l'individualité de l'homme mémorable, celle de l'homme calculable. Donc on passe de l'individualité de l'homme mémorable, le grand homme, le prince, à celui de l'homme ordinaire qui devient l'homme calculable par toute une série de mesures inscrites dans des dispositifs de savoir et de pouvoir. Donc, premier élément important chez Foucault, une individualité qui est une production, disons, extérieure de dispositifs normatifs qui s'imposent, de surveillance, de discipline qui s'imposent aux individus et qui les individualisent malgré eux. Mais Foucault va connaître un déplacement théorique à la fin de sa vie. Ce déplacement théorique, il est bien explicité dans le livre « L'usage des plaisirs », qui est le tome 2 de l'histoire des sexualités, de 1984. Et il va montrer comment il est passé de savoir à pouvoir à sujet. Je cite ce passage. « Un déplacement théorique m'avait paru nécessaire pour analyser ce qui était souvent désigné comme le progrès des connaissances. Il m'avait conduit à m'interroger sur les formes de pratiques discursives qui articulaient le savoir. » Donc, première phase des pratiques discursives qui articulent le savoir, c'est notamment ce qu'on trouve dans l'histoire de la folie. Il avait fallu aussi un déplacement théorique pour analyser ce qu'on décrit souvent comme les manifestations du pouvoir. Il m'avait conduit à m'interroger plutôt sur les relations multiples, les stratégies ouvertes et les techniques rationnelles qui articulent l'exercice des pouvoirs. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et c'est ce qu'on trouve de manière nette dans « Surveiller et punir ». Il apparaissait qu'il fallait entreprendre maintenant un troisième déplacement pour analyser ce qui est désigné comme le sujet. Il convenait de chercher quelles sont les formes et les modalités du rapport à soi par lesquelles l'individu se constitue et se reconnaît comme sujet. Donc quelque chose qui ne serait pas réductible à l'angle des dispositifs de savoir, des pratiques discursives de savoir, qui ne serait pas réductible aux dispositifs de pouvoir, qui serait le sujet, mais le sujet entendu dans un certain sens, les formes et les modalités du rapport à soi par lesquelles l'individu se constitue et se reconnaît comme sujet. Donc ce qu'on va appeler la subjectivation. Cette subjectivation, Foucault propose de commencer à en faire une histoire dans l'usage des plaisirs et dans le souci de soi, en s'intéressant, disons, sur l'Antiquité grecque et romaine. Alors, il explicite cette méthode dans l'usage des plaisirs. Je cite « Histoire, enfin, de la manière dont les individus sont appelés à se constituer comme sujet de conduite morale. Cette histoire sera celle des modèles proposés pour l'instauration et le développement des rapports à soi, pour la réflexion sur soi, la connaissance, l'examen, le déchiffrement de soi par soi, les transformations qu'on cherche à opérer sur soi-même. » Donc il y a tout un espace qui s'ouvre autour de ce que Foucault appelle la subjectivation ou encore la culture de soi. Donc, qui concerne les rapports à soi, la réflexion sur soi, la connaissance, l'examen, le déchiffrement de soi par soi, les transformations qu'on cherche à opérer sur soi-même. Il ajoute, c'est là ce qu'on pourrait appeler une histoire de l'éthique et de l'ascétique, entendue comme histoire des formes de la subjectivation morale et des pratiques de soi qui sont destinées à l'assurer. Et ce qui intéresse dans l'Antiquité grecque et romaine Foucault, c'est justement l'émergence d'une culture de soi qui, de manière intensive, intensifie le rapport de soi à soi, à travers des pratiques de moi vis-à-vis de moi, on pourrait dire. C'est ce qui développe particulièrement dans le souci de soi, donc le troisième tome de l'histoire de la sexualité, qui paraît aussi en 1984. Et il va s'intéresser donc à quelque chose qui se développe aux deux premiers siècles de notre ère, donc dans l'Antiquité tardive. Ce que Foucault appelle un phénomène d'assez longue portée historique, qui a connu à ce moment-là son apogée, donc lors des deux premiers siècles de notre ère, le développement de ce qu'on pourrait appeler une culture de soi, dans lesquels on a été intensifié et valorisé les rapports de soi à soi. Et c'est à partir de là que Foucault va insister sur l'idée d'une éthique de l'existence ou d'une esthétique de l'existence dans ses derniers textes. Je pense notamment à un entretien de juillet 1984 qui est repris dans les Dits et écrits et qui s'intitule justement « Une esthétique de l'existence ». C'est quoi cette esthétique de l'existence? C'est l'élaboration de sa propre vie comme une œuvre d'art personnel. L'élaboration de sa propre vie comme une œuvre d'art personnel. Et il va chercher ça dans l'Antiquité parce qu'il pense que des éléments qu'on trouve dans l'Antiquité peuvent nous dire des choses sur ce qui se passe à l'époque contemporaine ou la possibilité d'un que ça puisse remplir un espace qui s'ouvre à l'époque contemporaine. Je cite Foucault, « Et si je me suis intéressé à l'Antiquité, c'est que pour toute une série de raisons, l'idée d'une morale comme obéissance à un code de règles est en train maintenant de disparaître, a déjà disparu, donc il y aurait un changement de la morale comme obéissance. Et cette absence de morale doit répondre une recherche qui est celle d'une esthétique de l'existence. » Donc plutôt qu'une morale de l'obéissance à des codes et à des règles, une éthique et une esthétique de l'existence, du rapport de soi, qui intensifie les rapports de soi à soi. Alors, le problème, et je terminerai là-dessus, c'est de savoir dans quelle mesure il peut y avoir des relations entre ces deux Foucault. Le Foucault qui fait de l'individualité le produit de normes, de rapports de savoir-pouvoir qui s'imposent aux individus, et le Foucault qui, à la fin de sa vie, s'intéresse à la subjectivation, à cette éthique et esthétique de l'existence qui crée un espace d'autonomie pour l'individu, au contraire. Alors, certains vont considérer que Foucault, les deux Foucault sont complètement séparés. D'autres pensent que le deuxième Foucault, la subjectivation, est étroitement dépendant du premier, donc ça continue à être les dispositifs de savoir-pouvoir qui créent la subjectivité. Je m'intéresserai à une autre piste qu'on trouve notamment dans un livre d'un jeune philosophe foucauldien, Mathieu Pot-Bonneville, un livre qui s'appelle « Michel Foucault, l'inquiétude de l'histoire », qui a été paru au PUF en 2004, où Pot-Bonneville donne une piste en insistant, dit-il, sur le caractère à la fois libre et lié de la subjectivation chez Foucault. Le caractère à la fois libre et lié. Et ce caractère libre et lié pourrait faire un passage entre les deux Foucault, l'individualité disciplinaire et la subjectivation. Alors ça, on le trouve dans les textes de Foucault même, on le trouve dans Le souci de soi, une piste, une première piste de passage entre l'individualité disciplinaire et la subjectivation. C'est ce que j'appellerais la piste de la réponse A, opposée par exemple au langage sociologique de la détermination par, au sens causal. C'est-à-dire, une réponse sociologique classique, ça serait de dire... la subjectivité est déterminée par les contraintes sociales, par exemple par les rapports de classe, etc. Ça sera, disons, une voie qu'on pourrait, Bourdieu pourrait dire des choses comme ça, déterminée au sens causal, parce que déterminée a parfois un autre sens, au sens philosophique. Ici, dans un passage du souci de soi, on a une autre piste. Alors, je cite ce passage de Foucault. « À ce développement de la culture de soi et à l'inflexion qui s'opère alors dans l'éthique des plaisirs, les travaux des historiens peuvent suggérer plusieurs motifs. Deux surtout semblent importants, des changements dans la pratique matrimoniale et des modifications dans les règles du jeu politique. » Donc, Foucault va chercher dans les travaux des historiens de l'époque des modifications sociales, des modifications de la structure sociale qui s'opère à cette époque, et qui pourrait avoir un rapport avec l'émergence de cette culture de soi. Et donc il va se poser la question, comment on fait le lien entre ces changements sociaux dans les structures sociales et cette question de la culture de soi. Et Foucault répond, dans un sens justement pas sociologique classique, la culture de soi ne serait pas la conséquence nécessaire de ces modifications sociales. Un sociologue pourrait dire facilement ça, ou un sociologue bourdieusien, disons. La culture de soi est la conséquence nécessaire de ces modifications sociales. La culture de soi ne serait pas la conséquence nécessaire de ces modifications sociales. Elle n'en serait pas l'expression dans l'ordre de l'idéologie. Elle ne serait pas simplement l'idéologie de ces transformations sociales. Elle constituerait par rapport à elle une réponse originale sous la forme d'une nouvelle stylistique de l'existence. Elle constituerait par rapport à elle une réponse originale sous la forme d'une nouvelle stylistique de l'existence. Donc, la culture de soi, c'est une réponse à des modifications sociales. Elle ne serait pas déterminée par les modifications sociales. Alors, pourquoi on pourrait penser que c'est simplement un petit déplacement de mots, mais c'est une piste tout à fait différente. Si je dis que l'élaboration d'un style personnel, d'une stylistique de l'existence personnelle, est une réponse à des contraintes sociales, à des modifications sociales, à un certain état des dominations sociales. Je ne dis pas que cette stylistique de l'existence, ce style personnel, n'est que le résultat, le produit automatique de ces modifications sociales, de ces contraintes sociales, de ces rapports de domination. Je dis, elle répond à, c'est-à-dire qu'elle est bien dépendante de ces modifications sociales ou de ces contraintes sociales, mais elle est dépendante dans le sens où elle va lui donner une réponse. Mais dans cette réponse, il y a toute une autonomisation personnelle qui est possible, parce que chacun ne va pas donner la même réponse. Donc, la subjectivation n'est pas le simple produit de ces contraintes, qui serait le produit d'une certaine façon très proche pour l'ensemble des individus, mais elle serait bien contrainte, cette culture de soi, cette stylistique de l'existence, parce qu'elle répond à quelque chose, à des contraintes. Donc elle est, comme le dirait Pau de Bonneville, liée aux contraintes sociales, liée aux normes sociales. Mais elle est libre aussi, puisqu'elle constitue d'une certaine façon une réponse autonome à ces contraintes sociales. Donc le vocabulaire de la réponse à déplace complètement le langage sociologique par rapport au vocabulaire classique de la détermination par au sens causal. Alors, Foucault ajoute un autre élément qui précise un peu ce piste de passage entre l'individualité disciplinaire et la subjectivation. Donc le fait qu'il y a bien des normes, le fait qu'il y a bien des contraintes, le fait qu'il y a bien des dispositifs de savoir-pouvoir, et comment on peut penser quand même des formes d'autonomie personnelle ou des styles personnels. Alors là, il le dit dans l'entretien dont j'ai parlé de 1984, une esthétique de l'existence. Je cite, « Le sujet se constitue à travers des pratiques d'assujettissement et ou, d'une façon plus autonome, à travers des pratiques de libération, de liberté, comme dans l'Antiquité, à partir, bien entendu, d'un certain nombre de règles, styles, conventions qu'on retrouve dans le milieu culturel. » Foucault nous dit qu'il y a deux façons de constituer le sujet ou l'individualité. Par des pratiques d'assujettissement, c'est les pratiques normatives dont on a parlé la semaine dernière, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'individualité disciplinaire dont on a parlé, dans les rapports de savoir-pouvoir, où l'individualité est construite par ces dispositifs de savoir-pouvoir malgré l'individu, pour l'individu, en l'individualisant, c'est pas lui qui choisit de s'individualiser, ce sont ces dispositifs normatifs qui l'individualisent, malgré lui. On pourrait dire en sociologue que dans une société individualisée comme la nôtre, je ne choisis pas d'être un individu. C'est les normes sociales qui m'obligent à être un individu. Comme dans d'autres sociétés, au contraire, on m'empêche d'être un individu autonome, on m'oriente vers l'obéissance à des règles, à des cadres. Les sociétés contemporaines m'obligent à être un individu, donc c'est les dispositifs de savoir-pouvoir qui construisent mon individualité malgré moi. Et Foucault ajoute, ou d'une façon plus autonome, à travers des pratiques de libération ou de liberté. Des pratiques de libération, comme dans l'Antiquité. Et là, on en vient aux pratiques donc de subjectivation. Donc l'individualité se créerait après, d'une certaine façon, comme contrainte vis-à-vis des individus dans des pratiques d'assujettissement, mais aussi peut se constituer dans des formes plus autonomes, dans des pratiques de liberté, dans la construction de styles personnels, d'une stylistique de l'existence, dans cette culture de soi qui est un travail de soi sur soi. Et c'est pour ça que Foucault s'intéresse à l'Antiquité, et notamment à cette intensification de la culture de soi sur soi, qui sont les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Et Foucault ajoute, à partir, bien entendu, d'un certain nombre de règles, styles, conventions qu'on trouve dans le milieu culturel. C'est une deuxième indication très importante, c'est-à-dire, pour faire le lien entre l'individualité disciplinaire et la subjectivation, et les normes, Foucault a déjà indiqué la question de la réponse à, donc c'est une première façon de faire le lien, Mais cette réponse A se fait à partir de ressources sociales que les personnes ne choisissent pas, mais qui sont présentes dans le milieu culturel de leur époque. Des règles, des styles, des conventions qu'on retrouve dans le milieu culturel, à partir d'eux. Donc, elle ne se fait pas comme ça, de manière spontanée, de manière complètement libre. Elles se font aussi à partir des matériaux sociaux existants, la construction de cette stylistique personnelle. Et donc, ces deux dimensions, la réponse A et le fait que cette réponse A dans la construction d'un style personnel se fait à partir d'un matériau social, culturel que je n'ai pas choisi, ça nous indique cette double dimension que pointe bien Mathieu Pott-Bonneville sur le caractère à la fois libre et lié de la subjectivation. Et donc, avec ces deux figures de la subjectivation ou de l'individualité disciplinaire et la culture de soi, comme deux modalités extrêmes, et on peut penser d'ailleurs que ce sont deux pôles de choses qui peuvent avoir, disons, des choses plus intermédiaires ou métissées entre les deux. Là, il me semble qu'on a des éléments tout à fait intéressants chez Michel Foucault, et je terminerai cette introduction là-dessus, parce que pour moi, en tant que sociologue qui m'intéresse, disons, au statut de l'individualité dans les sociétés individualistes contemporaines, ça me permet d'appréhender de manière assez nouvelle la question. À la fois en pensant bien les contraintes, les normes sociales, la façon dont l'individualité contemporaine est imposée aux individus contemporains, et en même temps, comment à partir de ces normes peut se constituer des formes de subjectivation plus autonomes, sans nécessairement avoir besoin de nier le fait qu'il y ait des contraintes sociales, des normes sociales, des rapports de domination, mais en ne faisant pas simplement des styles personnels et des formes de subjectivation le simple produit mécanique de ces contraintes sociales. Voilà, et je laisse la parole à Daniel.
Bon, donc, moi je vais peut-être essayer de partir de la question que Philippe a posée tout à l'heure, c'est à quelle... je ne vais pas revenir sur ce qu'il a montré, à savoir qu'effectivement, il y a deux Foucault, il y a deux périodes dans Foucault. Une période où l'individu, où la subjectivité, le sujet est très critiqué et n'apparaît pas, et une deuxième période où il essaye de donner une place au sujet. Donc, entre ces deux Foucault, il y a effectivement l'analyse est assez compliquée, donc moi je prends plutôt parti pour l'interprétation qu'en donne Deleuze dans son bouquin sur Foucault, sur le dernier chapitre, donc l'épuisement de la pensée, si vous lisez, Philippe l'a amené, donc c'est ce livre que je conseille à tout le monde, au moins de lire le dernier chapitre. Et donc, mon intervention, non mais c'est pas si difficile à lire que ça, mon intervention visait à souligner un différent qu'on a depuis longtemps avec Philippe, pour mettre un peu d'animation, mais ça a un rapport, j'essaye de faire le lien aussi avec ce qui a été dit sur la subjectivité. Donc ma position, je ne peux pas l'argumenter trop fortement, mais c'est de dire qu'effectivement, il n'y a pas de contradiction entre le premier et le deuxième. À mon avis, il y en a, hein, mais il y a une lecture de Foucault qui permet de voir qu'il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a une critique impitoyable du sujet, de l'individu, le sujet comme assujetti et produit par le système, dans le premier Foucault, et du coup, dans cette position, il y a un problème. C'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir de l'émancipation, on l'a vu la dernière fois à propos des dispositifs, et est-ce qu'il y a un sujet qui existe? Et c'est vrai que Foucault, il est marqué par une tendance très structuraliste qui nie toute existence du sujet, et qui aboutit à une impasse, à mon avis, d'un point de vue libertaire. Moi, je défends toujours un point de vue de la pensée anarchiste. Donc, ça aboutit à une impasse. Alors, en même temps, Foucault, il pose un problème gigantesque qui est intéressant, c'est qu'il va ajouter au grand cri la mort de Dieu. Donc, je me rappelle, et là, c'est là le différent avec Philippe qu'on avait eu dans Charlie Hebdo, non, je crois, que tu m'avais permis d'écrire dans Charlie Hebdo. Et donc c'est dans les frères Karamazov, Dostoïevski qui dit « si Dieu est mort, tout est permis ». Et donc tout le Foucault et tout ce courant va dire « l'homme est mort », ils vont annoncer la mort de l'homme. Mais c'est évidemment l'homme tel qu'il est fabriqué par la modernité, l'individu avec ses rôles, ses fonctions, etc. Et donc, donc le problème sous-jacent, si on remet en cause les normes, l'ordre social, etc., est-ce qu'il peut y avoir une subjectivité soit bonne ? Est-ce que le bien et le mal disparaît pas ? Voilà, il y a ce grand problème. Alors, la thèse que je soutiendrai, c'est que la subjectivité que tente de réinventer Foucault à la fin de sa vie n'est pas contradictoire avec sa critique impitoyable du sujet moderne, de l'individu moderne, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé énormément dans les livres qu'a cité Philippe, c'est que moi, j'ai travaillé sur les textes des syndicalistes révolutionnaires d'avant 14, donc je renvoie un livre, j'ai dû vous donner la référence, je ne l'ai pas ici de mémoire, mais qui est paru autour de Jacques Rancière aux éditions de l'Université de Saint-Étienne. C'est un livre collectif où moi j'ai fait un truc où j'ai travaillé sur des brochures de Griffuel, de Pouget et de Pelloutier. Et on retrouve, alors c'est fascinant de voir dans ces brochures, j'ai fait une analyse de texte assez précise, soi-même, soi, lutter avec ses propres forces, etc. Ça revient sans arrêt. Et évidemment, il y a un lien entre la subjectivité que défendent les syndicalistes révolutionnaires, ce n'est pas du tout le sujet moderne. C'est le syndicat, c'est l'humanité, c'est le mouvement qui crée lui-même la subjectivité s'identifiant au mouvement, l'ouvrier, pomme de terre. Enfin, il faudrait que je vous cite ces brochures. Il y a beaucoup de brochures nulles, mais il y a des brochures qui viennent à un moment où il y a eu une pratique très forte, et ces textes de Griffuel et de Pouget et de Pelloutier. Pelloutier, je rappelle, la définition qu'il donne du syndicalisme, c'est le secrétaire des bourses du travail. Il dit, ce qui nous sépare des marxistes, c'est nous sommes des amants de la culture de nous-mêmes. C'est ce que tu as dit tout à l'heure et ce que dit Foucault sur les Grecs. Hein. Et donc, il y a un lien évident entre... Sauf que cette subjectivité, c'est pas la subjectivité du sujet moderne produit par la modernité. Et à côté des analyses de Foucault, je pensais les analyses d'Elias, qui sont aussi des analyses de la production de cet individu moderne. Donc il y aurait une subjectivité qui ne serait pas l'individu, des subjectivations qui ne seraient pas liées au modèle que l'on a de l'individu. Et c'est ça que je voulais développer, mais ce que je vais dire maintenant a à voir avec ça. Donc je vais... C'est pour aussi alimenter un peu la polémique. Foucault, je n'ai pas la référence précise, mais Foucault, son grand maître, c'est quelqu'un qui s'appelle Kant Guillem, qui est un philosophe, pas inclassable, mais enfin, donc je n'ai pas amené de renseignements sur lui, vous chercherez Canguilhem, qui est donc un philosophe des sciences, en fait, hein, un épistémologue des sciences. Et donc, Foucault, dans un texte, reprend à son compte, donc je vais faire de l'histoire un peu de la philosophie en France récente. Donc Foucault dit, en gros, il y a deux grandes traditions en France. Vous avez une philosophie du sujet, de l'expérience personnelle, alors c'est une vieille tradition française, de la conscience, du sens, et une philosophie du savoir, de la science, des concepts. Donc d'un côté, vous auriez la philosophie du sujet, c'est Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Ricoeur, en gros la phénoménologie, hein, mais si on remonte plus loin, c'est Descartes et Kant, etc. Et de l'autre côté, vous avez, sur la modernité, vous avez Cavaillès, donc je vais en reparler, qui est un philosophe des mathématiques, Bachelard, Canguilhem lui-même, et puis il y aura Deleuze, Foucault, au moins le premier Foucault, etc. Donc d'un côté, vous avez une tradition qui part de l'homme, une tradition humaniste de la conscience, de l'engagement, de la morale, de la responsabilité. Hein, Sartre, tout ça, c'est... Je me pose des questions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je vais à l'armée, j'y vais pas, etc. Et de l'autre côté, vous avez une tradition anti-humaniste qui dit l'homme, il existe que dans des agencements différents, etc. Et une tradition qui va finir par à proclamer la mort de l'homme. Donc il va faire une critique de sujet produit par la tradition et par la modernité. Donc Dieu est mort, tant mieux, et même si c'est grave. Mais l'homme, comme l'homme, il était fait à l'image de Dieu, ou même il a prétendu se mettre à la place de Dieu, donc qui meurt aussi, c'est tout à fait normal, et on va enfin inventer, j'exagère, mais c'est ça en gros, inventer des subjectivités. Donc, si vous, en étant sur une période plus longue, la première tradition, ben, elle remonte à Descartes, et puis la deuxième, elle va de Spinoza à Nietzsche, ou à Auguste Comte. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, et ça se recouvre bien. Donc, le point de départ, c'est donc... je vais essayer de s'appuyer... Je me suis mélangé avec papier, bon, c'est pas grave. Ah, ben le voilà, oui, pardon. Ah, bon. Donc, la formule que l'on peut retenir, c'est de dire si l'homme est mort, s'il n'y a plus de valeur, s'il n'y a plus de normes, et s'il n'y a plus d'ordre social pour donner du sens à la vie humaine, tout est permis et on n'a plus de normes pour agir. Hein, donc, on retrouve cette idée... Et nous sommes en plein dans le thème de l'université populaire. Quand il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de limites. Voilà. Hein. La mort de l'homme, c'est forcément la barbarie. Donc la thèse que je voudrais défendre, c'est en quoi il y a des formes de subjectivité qui ne relèvent pas de ce sujet. On n'est pas obligé de passer par ce sujet moderne pour inventer des formes de subjectivité qui plongeraient dans le réel. Et donc là, on a un autre texte, qui est un texte de Jean Guillem lui-même, qui va apporter une réponse assez terrible, donc elle est tellement forte qu'elle est exagérée, évidemment, à cette polémique. Hein, donc la polémique entre ceux qui disent « il faut quand même garder un cadre, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, etc. » Donc, l'argument de Jean Guillem, je vous renvoie, c'est dans les œuvres complètes, c'est une conférence qu'il a prononcée à Strasbourg en 67. J'ai pas le titre exact, mais vous trouvez dans les œuvres complètes, page 667-675, donc il y a un texte très fort, où Jean Guillem va répliquer de manière violente, mais c'est la violence de Jean Guillem très calme, hein, mais sur le fond... s'explique en partie par la violence des adversaires de la pensée nietzschéenne ou anarcho-nietzschéenne, en gros on pourrait dire ça. Je pense en particulier, non pas à ton texte à toi, mais je pense à Habermas qui a fait un gros livre où en gros on renvoie où il fait une attaque contre la pensée française, Deleuze, Foucault, etc., une attaque très violente, toujours avec le même argument, en disant... C'est une pensée qui détruit l'humanisme, qui détruit l'être humain, et donc qui est nazi ou qui rejoint la barbarie, etc. Et surtout derrière, vous avez un deuxième argument très fort, mais je laisse de côté, c'est qu'en gros, ceux qui contestent l'ordre du langage, de la société, etc., qui se taisent, hein, qui deviennent mystiques dans le désert ou qu'ils aillent tuer leur belle-mère, mais ils n'ont rien à dire puisqu'ils ne peuvent pas articuler un énoncé. Puisque dès qu'on articule un énoncé, on a besoin de l'ordre du langage, au moins, pour que cet énoncé ait un sens. Donc derrière, on a une série de problèmes qu'on a pu voir. Et donc, dans cette conférence, Jean Guillem s'interroge, pas naïvement, mais il s'interroge sur le fait que des gens qui ne sont absolument pas des humanistes, qui étaient donc Cavaillès qui était un philosophe des sciences... Vous avez un autre grand philosophe des sciences mathématiciens, philosophe des mathématiques, qui s'appelait André Lotman, donc retenez son nom, hein, et c'est Lotman, oui, et donc c'est Cavaillès et Lotman, donc dans les années 40, ils se sont engagés dans la résistance et ils ont été fusillés tous les deux en 44. Et donc Jean Guillem faisait remarquer comment des philosophes qui n'étaient pas du côté du sujet, de la morale, etc., avaient pu s'engager, prendre position immédiatement, sans passer. Donc ça veut dire que l'engagement politique, l'engagement éthique en fait, c'est ça qui est derrière, c'est pas un engagement politique, c'est un engagement éthique, mais les deux vont ensemble, l'action politique ne relève pas d'impératifs moraux, hein, mais de toute autre chose qui nous échappe, dont nous ne sommes pas les maîtres. C'est-à-dire qu'Avaïès, il s'est engagé là-dedans, ça lui a paru évident qu'il fallait tout de suite s'engager dans la résistance et contre ce qui se passait. Il faudrait analyser ce qui a joué. Mais on a plein d'autres exemples. On connaît le film qui a été fait sur cette mère de famille qui rentre chez elle, qui voit des enfants qui vont être arrêtés et qu'elle ne réfléchit pas. Vous voyez, le problème de la conscience, c'est que si on se met à réfléchir, on ne ferait jamais rien. Enfin, si on peut dire, attendez, je vais aller voir mon directeur de conscience pour savoir si je dois... Non, on a le bon réflexe ou le mauvais. D'ailleurs, on ne sait pas bien pourquoi on a le bon et le mauvais. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'action, on agit. Je suis en train de relire les policiers, je suis en train de relire Chesterheim. Si vous lisez Chesterheim, dans le ghetto noir, ils agissent sans arrêt. Il n'y a pas d'introspection ou d'autre. Et donc on peut dire que Cavaillès a réagi, c'était irréfléchi. Donc dans un sens comme dans un autre, bon ou mauvais, c'est vrai que ça peut être mauvais. Hein. Et donc... En fait, c'est une question de geste, c'est une question de la volonté, elle s'affirme dans un geste. Alors, ce qui est passionnant du point de vue philosophique, c'est que Cavaillès, Lotman, je ne sais pas, je connais un peu moins, mais Cavaillès, justement, a théorisé la notion de geste en mathématiques. C'est-à-dire que ce qui relève le plus de la conscience et de la pensée renvoie à un geste, en fait. Et le monde est peut-être fait de gestes. Hein. Si vous êtes avec des gens qui ont des bons gestes, vous allez être entraîné dans une dynamique où votre subjectivité va être bonne, elle va produire de la bonne volonté, vous voyez. La volonté, alors que si vous êtes avec quelqu'un qui a des mauvais gestes, vous êtes pris dans un climat. Donc on est, les zones de subjectivité dont parle Deleuze dans le bouquin sur Foucault, ne définissent plus un sujet, puisque le sujet, même la volonté, elle change de sens, vous voyez. Parce que la volonté, c'est je veux quelque chose, je vais réfléchir avant sur ce que je veux. Pour être sûr que ce que je veux soit bien. Hein. Généralement, je fais rien d'ailleurs. Hein. Généralement, je reste. Donc, alors que vous avez la volonté au sens de Nietzsche ou de Deleuze, la volonté, c'est un désir, c'est une force. La volonté, c'est à un moment donné, c'est évident, il faut y aller. Vous regardez vos copains et vous dites, il faut y aller, on ne peut pas laisser faire les choses comme ça, etc. Et la dynamique est collective, et c'est ça que Griffuel ou Pouget théorisent dans leurs brochures. C'est l'ouvrier tout seul, c'est une pomme de terre, c'est l'image de Pouget, elle est très vulgaire, une pomme de terre à côté d'une autre pomme de terre, quoi. Voilà, c'est son image, bon. Mais tout seul, il n'est rien, il n'est qu'un individu où s'il réfléchit une minute, il ne peut rien faire. Puis brusquement, il y a 10 copains à côté de lui qui se lancent dans une action et il change complètement. Mais il y a de la subjectivité, c'est ce que théorisent Pouget et Griffuel. Mais cette subjectivité, elle est collective, donc on la retrouve Et donc la notion de geste, vous la retrouvez dans les mathématiques. Donc d'une certaine façon, Cavaillès ou Lotman, ils théorisaient, sur le terrain des mathématiques, de la philosophie pure, ils théorisaient ce qu'eux, ils allaient faire. Qu'est-ce que c'est qu'un bon geste ou une bonne intuition? C'est ça l'idée d'intuition. C'est pour ça que Deleuze est bergsonien et qu'il a... Donc ces deux, alors voilà, j'en arrive au point délicat, non, j'ai encore un peu de temps, oui, j'ai un peu ça. Non, ce que je voulais dire, mais là c'est complètement polémique, c'est injuste en plus, mais ça fait rien, je le dis quand même, c'est que pendant que Cavaillès et Lotman se faisaient fusiller, Sartre, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait les mouches, hein, une pièce de théâtre à Paris, où il y a des officiers allemands, c'est pas ça qui est grave, hein. J'ai rien contre le fait de faire du théâtre. Ce que je veux dire, c'est que la conscience, elle garantit rien. C'est-à-dire que tout le monde sait, quand il y a des drames historiques, moi je viens du catholicisme, vous voyez bien que celui qui se pose des cas de conscience et qui va voir son directeur de conscience, c'est évident qu'il fera rien. Ou alors quelques-uns parmi... voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'était mon coup de pied très mauvais, injuste et tout, sur Sartre, mais... Merleau-Ponty, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc derrière, il y aurait une idée. Alors ça ne résout pas les problèmes de Foucault, où à mon avis, ce que tu as dit montre que c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas sûr que Foucault ne revenait pas sur une position antérieure. Alors, je garde un petit point là que je voudrais aborder par rapport à ce que tu as dit. Moi, ce qui me semble important, c'est de voir que cette différence, elle se poursuit philosophiquement dans la distinction entre morale et éthique. on voit bien que la morale, faut se méfier. Dès qu'il y a de la morale, il y a de l'hypocrisie, il y a de l'arrêt, parce que la vie, elle n'est pas je m'arrête pour réfléchir, c'est pas vrai, ça se passe jamais comme ça. Et quand on s'arrête pour réfléchir, à mon avis, enfin, il faut bien le faire de temps en temps, mais c'est qu'on est pris dans un dispositif où on vous oblige à vous arrêter pour réfléchir. Donc de l'autre côté, vous avez l'éthique. Et l'éthique, c'est pas la morale, et à ce moment-là, c'est là où Spinoza apporte quelque chose d'essentiel, c'est que l'éthique, c'est lié à la pratique, c'est lié à la vie. Et l'éthique, elle a à voir avec l'éthologie, elle n'a pas à voir avec la morale chrétienne ou religieuse ou laïque ou autre. L'éthique, elle a à voir avec... C'est-à-dire que quand Spinoza s'intéresse à la manière dont les araignées mangent les mouches, il s'intéresse au vrai. Nous aussi, on est des animaux et l'éthique relève de... Et du coup, du point de vue, puisque ma lecture de Foucault est liée à l'anarchisme, c'est évident qu'il y a une redécouverte de Kropotkin actuellement qui est très importante, puisque Kropotkin, c'est celui qui a saisi comment l'homme, avec Élisée Reclus du côté de la géographie, l'homme est pris dans la nature, et le bon et le mauvais, la question que nous avions débattue, reste entièrement ouverte. Comment déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ça, c'est une vraie discussion. Moi, ma position, c'est que le bon et le mauvais, on ne peut pas le trouver chez un dieu quelconque ou un état ou autre. Le bon et le mauvais, c'est la pratique commune qui permet de l'élaborer ensemble dans la pratique. Voilà. Donc ça serait ça. Et donc, l'éthique ayant à voir avec l'éthologie, la subjectivité doit être définie autrement. Et donc j'en arrive, et je conclue là-dessus, j'en arrive au dernier point. Je me demande si la tentative de Foucault de redonner un statut au sujet et à la subjectivité, je me demande si la solution, alors je ne sais pas, est-ce qu'elle n'est pas du côté du problème que j'ai essayé de soulever la dernière fois, de la distinction entre dispositif et agencement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on retombe dans un dualisme où tout ce qui est structure sociale serait du côté du mal, de ce qui est mauvais, et donc la liberté, ça serait du côté de Sartre, hein, parce que Sartre, la liberté de Sartre, c'est la néantisation. Hein, pour Sartre, c'est le néant face à l'être. Hein, Castoriadis est sur la même position, ou le fort, vous avez d'autres gens comme ça. Donc vous auriez, le monde serait, la liberté, ça serait une espèce de truc transcendant qui viendrait, on ne sait pas d'où. C'est là où Dieu ressurgit. Alors que l'autre hypothèse, qui est celle qu'on peut trouver chez Deleuze, c'est que le réel, il est fait d'agencements et de dispositifs, soit naturels, soit culturels, soit etc. Mais ces agencements n'ont pas de valeur bonne ou mauvaise. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais, donc j'en reviendrai à Spinoza. La question, ce n'est pas le bien ou le mal, c'est ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et l'intuition, c'est de former un ensemble plus... Donc, il faudrait rentrer dans les détails. Et c'est ce que, je terminerai là-dessus, ce que l'anarchisme a essayé par le fédéralisme, c'est-à-dire d'associer des forces qui, en s'associant, créent un plan, un mouvement, donc ce que Deleuze appelle un plan d'immanence, où des forces qui s'associent ne se détruisent pas les unes les autres, mais, comme disait Bakounine, ma liberté... Se développe à l'infini, elle ne s'arrête pas là où commence la liberté des autres, mais elle se développe à l'infini à travers la liberté des autres, donc s'associer, et on est bien sur un terrain éthique et éthologique.
Bien, donc je voudrais reprendre une série d'éléments pour, en fait, peut-être qu'on comprend mieux un peu pour clarifier les différences. En fait, je pense que à la différence de Daniel, je pourrais dire que mais du point de vue de l'analyse ou même des perspectives politiques ou éthiques, mon point de vue est celui du métissage et de l'entre-deux, et lui davantage celui de la pureté. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi. D'abord, quand premier personnage métissé, tout à l'heure il parlait de cet anarcho-syndicaliste Pouget et de qui qualifie les marxistes d'une certaine façon. Or, Marx est un personnage métissé. Il y a une composante libertaire chez Marx, qui traite ces questions, mais qui est méconnue. Alors, je prends et qui est très proche d'une certaine façon de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Michel Foucault dans l'élaboration de sa propre vie comme une œuvre d'art personnelle, hein, de la culture de soi. Si je prends les manuscrits 1844, Marx avance la visée qui est celle, disons, du communisme. Chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref, tous les actes de son individualité. Donc une définition sensualiste du communisme, qui passe par les relations avec les autres. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Il prolonge, disons, dans l'idéologie allemande avec Engels en 1845-1846, contre la division du travail. Et c'est toujours cette stylistique de l'existence, hein, c'est quelque chose comme élaboration de sa propre vie comme une œuvre d'art personnelle. Dans la société communiste, c'est le contraire de la société capitaliste. Personne n'est enfermé dans un cercle exclusif d'activité et chacun peut se former dans n'importe quelle branche de son choix. C'est la société qui règle la production générale et qui me permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de m'occuper d'élevage le soir et de m'adonner à la critique après le repas, selon que j'en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. Donc, je deviens différentes subjectivités, je deviens différents personnages comme j'en ai envie, sans être astreint à la division du travail et sans me fixer dans des rôles déterminés. L'idéologie allemande. Et puis on passe à la fin de la vie de Marx, un de ses derniers textes, la critique du programme de Gotha, 1875, où il parle de la phase supérieure de la société communiste et il la définit ainsi, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Marx ne dit pas à tous leurs capacités ou à tous selon leurs besoins. Non, non, il dit de chacun. Chacun développe ses propres capacités, développe ses propres besoins, ses propres désirs, d'une manière infinie, et c'est ça l'orientation de la société. C'est pas du tout les cadres collectifs, c'est pas du tout les cadres sociaux, c'est le développement de soi, de sa propre vie comme œuvre d'art, si on reprend les termes de Foucault, qui est, disons, l'objectif de ce communisme de la singularité individuelle. Donc évidemment, il y a d'autres éléments dans Marx, et c'est pour ça que je parle de personnages métissés. Alors, le problème de cette composante libertaire chez Marx, elle se pose aussi par rapport, disons, à d'autres composantes libertaires dont a parlé, ou Nietzschéennes dont a parlé Daniel, parce qu'elle s'appuie sur une certaine anthropologie philosophique. Une anthropologie philosophique que j'appelle des désirs humains créateurs, c'est-à-dire l'homme se définit par des désirs et ces désirs, disons, ont une dimension créatrice et émancipatrice. Alors, cette anthropologie philosophique, elle a été mise en cause par d'autres anthropologies philosophiques. En sociologie, il est intéressant de comparer Marx à Émile Durkheim, qui est un des fondateur de la sociologie universitaire. Et Durkheim propose une anthropologie philosophique, donc une certaine vision de ce que sont les caractéristiques des humains, différente. C'est ce qu'on pourrait appeler une anthropologie philosophique des désirs frustrants. Les désirs sont bien illimités, mais ils ne sont pas créateurs et émancipateurs, mais ils provoquent une frustration qui menace à la fois l'individualité et la société. Je cite une des œuvres importantes de Durkheim, Le Suicide, 1897. Une soif inextinguible est un supplice perpétuel. Une soif inextinguible est un supplice perpétuel. Au lieu que le désir se remplisse de création et d'émancipation, le désir provoque au contraire la frustration. Au fur et à mesure où il se remplit, il déborde de plus en plus. Et donc il détruit le porteur du désir et la société en même temps. C'est ce que Durkheim appelle l'anomie. Alors, le métissage ici, ça serait quoi, la position du métissage? Eh bien, ça serait une anthropologie philosophique qui serait une anthropologie de l'ambivalence des désirs humains. C'est-à-dire qu'ils prendraient en compte à la fois leurs composantes frustrantes et leurs composantes créatrices. Au lieu de choisir l'un ou l'autre, bon, au lieu de choisir la composante, disons, qu'on va appeler nietzschéenne ou la composante durkheimienne. Mais la composante durkheimienne, c'est celle qu'on retrouve chez Freud aussi, ou qu'on peut retrouver chez Lacan. Et donc, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Soit on l'aborde d'une certaine façon en tirant un pôle, et c'est ce que me semble faire Daniel, et en voyant ce que donne ce pôle, et en faisant le pôle de référence, soit on s'intéresse à l'entre-deux et au métissage. Et là, un métissage anthropologique. C'est la même chose pour, si on prend ce qui a été dit sur Merleau-Ponty ou Lévinas. En fait, il y a, comme l'a dit Daniel, des philosophies du sujet. Et sans doute que Sartre reste le plus proche de ça. Deleuze, dans son livre sur Foucault, le dit bien. Sartre, au contraire, en restait à l'intentionnalité. Bon. Donc, il demeure dans une certaine souveraineté de la conscience et de l'intention. Deleuze nous dit, Foucault, lui, a rompu avec la phénoménologie au sens vulgaire, c'est-à-dire avec l'intentionnalité. Que la conscience vise la chose et se signifie dans le monde, c'est ce que Foucault refuse. Mais il nous dit que, Deleuze, il nous dit que une série de gens qui partent de la phénoménologie l'ont abandonné. Et c'est notamment Merleau-Ponty. Où, disons, font un chemin vers un autre élément. Il trouve chez Merleau-Ponty, donc il dit, le dépassement de l'intentionnalité vers l'être, le pli de l'être. Et quand Deleuze dit Sartre au contraire de Merleau-Ponty. C'est-à-dire que, et on pourrait dire la même chose de Lévinas, c'est-à-dire que Lévinas ne propose pas une théorie de la souveraineté du sujet, mais la façon dont le sujet, au contraire, détrôné par le visage d'autrui, constamment. Et donc, est mis en échec. Et donc, on a, du côté des gens qui sont du côté de la philosophie de la conscience, des gens qui vont vers autre chose, en mettant en cause une certaine souveraineté de l'intention et de la conscience. En n'abandonnant pas complètement le point de départ d'où ils viennent, mais où ils ont fait ce chemin. Et Foucault fait un chemin inverse. Il y a bien une fabrique disciplinaire du sujet moderne, dont il fait la critique, on en a parlé tout à l'heure, mais dans la façon de considérer la subjectivation, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la réponse A, est fabriquée aussi avec un matériau culturel qui est celui de la société existante, donc des contraintes sociales, etc., il fait un chemin de l'autre côté, de la philosophie structuraliste vers quelque chose d'autre. Il va vers cet entre-deux, à partir d'un point de départ qui n'est pas évidemment celui de Merleau-Ponty ou de Lévinas, mais il va aussi, à partir d'un point de départ différent, vers cet entre-deux. La subjectivation comme réponse A, elle intègre à la fois la possibilité d'émergence d'un sujet, mais pas sous la forme du sujet souverain, mais en même temps elle intègre la critique du sujet, c'est-à-dire le fait que le sujet est aussi fabriqué par des procédures disciplinaires que les individus n'ont pas choisies. Je reprends la citation de Foucault de l'entretien de 1984. Je pense effectivement qu'il n'y a pas un sujet souverain fondateur, une forme universelle de sujet qu'on pourrait repérer partout. Il ajoute, je pense au contraire que le sujet se constitue à travers des pratiques d'assujettissement ou, d'une façon plus autonome, à travers des pratiques de libération, de liberté, comme dans l'Antiquité, à partir, bien entendu, d'un certain nombre de règles, styles, conventions qu'on retrouve dans le milieu culturel. Peut-être que nos positionnements respectifs ont à voir à ça. En fait, je défends la position qui me semble être celle de l'évolution de Merleau-Ponty, ou de Lévinas d'un côté à partir de la phénoménologie, ou celle de Foucault à partir du structuralisme, c'est-à-dire la position du métissage et de l'entre-deux.
Oui, donc Non, je voudrais me défendre sur un point, et après peut-être discuter, c'est sur l'histoire de la pureté. Alors là, je me sens pas très pur, mais bon. Alors, c'est peut-être la notion de métissage que moi je critiquerai dans la mesure où elle apparaît. C'est vrai que moi j'aurais tendance à défendre, enfin c'est pas moi personnellement, mais le courant auquel je me rattache, défendrait une position qui se réclame d'une ontologie unique, l'ontologie du multiple. Donc la définition, c'est celle que donne Deleuze, l'anarchie, cette étrange unité qui ne se dit que du multiple. Donc c'est vrai qu'il y a un côté qui peut apparaître comme totalitaire, enfin comme qui donc refuse les compromis ou l'idée. Enfin, c'est bien une pensée qui prétend rendre compte de l'être. C'est vraiment une ontologie, je crois, qui moi me séduit. Là-dedans. Alors la force de cette ontologie, c'est que c'est une ontologie du multiple, à condition qu'elle soit vraiment une ontologie du multiple. Mais du coup, elle pose plein de problèmes, puisque comment il peut y avoir une ontologie du contradictoire, du différent, etc. Donc c'est ça qui est passionnant, mais qui pose plein de problèmes. Du coup, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas une idée de pureté, puisque dans cette analyse, on est sûr de rien. Tout agencement, toute situation sociale est porteuse de bon comme de mauvais. Donc, il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire que si vous avez le révolutionnaire le militant syndicaliste le plus révolté dans son usine, il tape sur sa femme, il se fait servir par sa femme, et on peut même montrer que s'il est si révolté dans l'usine, c'est justement un contraste entre le fait qu'il est le roi chez lui et un serviteur à l'usine. On peut montrer qu'une organisation révolutionnaire se transforme en deux jours, l'exemple de la CNT en 36, qui devient un appareil d'État en 8 jours. Donc les choses se transforment, un policier, donc tout est, en fait on serait bien dans un, alors ça serait pas, le mot métissage ne convient pas, on est dans une situation en une situation où tout est singulier, et en même temps la boussole c'est quand même l'oppression et l'émancipation. Donc il y a bien une boussole, mais une boussole qui est individuelle. Donc d'un côté il y a l'oppression, de l'autre côté il y a l'émancipation. Donc on a le vocabulaire de Spinoza qui permet de penser ça. L'émancipation, on a un critère évident, c'est la joie. Quand on est heureux, c'est que ça va bien. Et la définition de Spinoza, c'est qu'il y a une augmentation de puissance. Et puis quand il y a de la tristesse, ça serait l'oppression, quand on se replie sur soi. Donc on voit bien après qu'on peut avoir de la joie en écrasant ses voisins ou en faisant je ne sais pas quoi. Donc après, c'est bien la pratique collective des rapports de force qui fait que vous vous heurtez à quelqu'un, vous êtes très content parce que vous avez parlé, etc. Et quelqu'un vous dit, tu t'écrases un peu, dans un syndicat, et vous dites, du coup, vous avez un moment de tristesse, mais après vous vous adaptez à l'autre. Donc il y a bien un rapport. Voilà, c'était le premier point que je voulais développer. Donc je ne pense pas être dans une situation de pureté. Je comprends ta critique, c'est effectivement que je suis dans une prétention ontologique, qui n'est pas la mienne évidemment, mais qui est une prétention ontologique très grande, enfin qui est une prise de position ontologique de fond, voilà, donc qui prétend rendre compte de tout, enfin voilà, c'est ce qui est quand même exorbitant, il faut dire ce qui est. Le deuxième point, il est que dans cette ontologie, il y a le fait qu'effectivement dans cette ontologie, il n'y a que du désir, donc le désir n'est pas relié à des êtres qui désiraient, qui seraient désirés, etc. Mais la subjectivité elle-même serait liée à des jeux de désir, et désir étant lié à force, étant lié à puissance, voilà, donc il faudrait développer plus. Donc la subjectivité, c'est je me réveille le matin et j'ai une subjectivité à plat. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de désir, la dernière fois. Alors qu'un matin, je vais me réveiller en disant j'ai le ménage à faire, c'est extraordinaire. Non, on peut trouver sa joie. Voilà. Donc c'était le deuxième point que je voulais dire. C'est donc le désir. Alors c'est vrai que l'idée de... Mais moi, je me sens... Par contre, non, les deux points que je voulais souligner, c'est que les textes que tu as donnés de Marx, ils sont, moi je ne les connaissais pas, mais je les trouve extraordinaires, effectivement. Alors le jeune Marx, il aurait dû rester jeune plus longtemps. mais ces textes sur l'histoire du miroir, effectivement, mais moi il me semble que dans Marx, Spinoza il connaît manifestement. Hein, il a un côté spinoziste, au-delà de... Donc il y a ça qui m'a paru. Et deuxièmement, effectivement, je connais pas bien Merleau-Ponty, donc tout à l'heure c'est de la polémique, mais c'est vrai que sur le sensible et moi ce que j'ai lu c'est ces trucs, ces cours sur la nature, c'est évident que Merleau-Ponty c'est pas Sartre, hein, on est bien d'accord. Hein.
Voilà. Juste avant de une petite élément pour peut-être clarifier le débat sur pureté. En fait, ce que je veux dire, c'est pas sur le plan du monde où le monde serait pur, mais c'est un plan épistémologique, c'est-à-dire, c'est ça quand tu as dit une ontologie un peu totalisatrice. C'est l'outillage théorique qui est une sorte de purification. Bon. Et c'est pour ça que moi, je préfère la démarche de la boîte à outils de Foucault à la démarche de Deleuze. Parce que Foucault, il l'a indiqué tout à l'heure, enfin, je l'ai indiqué tout à l'heure par rapport à l'usage des plaisirs, il montre qu'il a fait des déplacements successifs, il a tourné autour du problème avec différents outils, mais il n'est pas parti d'une ontologie et il n'y est pas complètement arrivé. Il bouge en utilisant des outils différents dans une boîte à outils. Bon. Il y a cette mobilité du déplacement théorique qui m'intéresse chez Foucault. Voilà. Et donc, c'est sur ce plan épistémologique, disons, que là, il y a une dimension différente. Là, on peut peut-être passer à la discussion maintenant.